Patricia Martin, votre invitée, la philosophe Julia de Funès.
Bonjour Julia de Funès.
Bonjour Patricia Martin.
Vous êtes philosophe, donc Pierre Veil vient de le dire, vous êtes auteur d'un livre, Le développement impersonnel, le succès d'une imposture, mais vous l'aviez écrit avant la crise. Vous semblez très irrité à la fois par la niaiserie ambiante et par le fait que d'un côté il y a un déconfinement, de l'autre une surveillance accrue, vous l'avez écrit dans une tribune du Figaro. Vous pensez que c'est incompatible ?
Non, je suis pas très irritée, mais c'est remarquable de voir certaines incohérences de sens. C'est-à-dire que c'est un peu la pirouette terminologique du en même temps. Nous serons déconfinés, mais en même temps plus contrôlés. On va passer clairement de l'enfermement à l'examen, de l'isolement à la surveillance, massification des tests, identification des cas contacts, mise en place de brigades, etc. Donc tout sera vu, visible, tracé, traqué, justifiable, justifié. Donc nos comportements seront évidemment moins limités dans l'espace, mais davantage conditionnés parce que hautement contrôlés. Donc on va devenir moins libre tout en l'étant plus. C'est un peu la magie du en même temps.
Donc c'est une restriction de la liberté physique et psychologique en fait.
On troque une restriction de liberté physique contre une restriction de liberté psychologique. On sera évidemment dans le contrôle et l'autocontrôle permanent.
Avec une traçabilité un petit peu comme pour les animaux, ça pose la question de la confiance en l'autre. Il y a toujours une part d'incertitude vis-à-vis de l'autre. Et s'il n'y a pas de place pour le doute, ça va être le cas. Il ne faut pas qu'il y ait de doute.
Exactement. Alors c'était drôle parce que durant le discours d'Edouard Philippe, le contrôle, ce contrôle accru, n'empêche soi-disant pas la confiance. Mais comment faire confiance tout en contrôlant, c'est impossible. Vous savez la fameuse phrase qu'on prononce souvent, la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est une hypocrisie sans borne. C'est pratique rhétoriquement, mais c'est une hypocrisie sans borne. Puisque faire confiance, comme l'étymologie l'indique, ça vient de cum fidere, confiance, ça veut dire avec foi. Donc quand on fait confiance, si je vous fais confiance, je crois en vous, je parie sur vous. Avec la dose d'incertitude inhérente à toute croyance. Si on croit en Dieu, c'est qu'on ne sait pas, qu'on n'est pas certain de l'existence de Dieu. À l'inverse, quand on contrôle, évidemment, on n'est plus du tout dans la croyance et son doute inhérent, mais dans la connaissance des preuves. Donc il y a évidemment des phases de contrôle, et le déconfinement sera une phase de contrôle. Il y a des phases de confiance, mais les deux, de manière concomitante, en même temps, restent évidemment impossibles. Comment être à la fois dans la croyance et la connaissance, croire tout en ayant la preuve, c'est un peu l'illusion du en même temps à laquelle on pourrait souscrire.
Et Juliette Funès, le fait que le Premier ministre soit exprimé donc cette semaine à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que ça signifie pour vous ? C'est lourd de sens ?
Oui, c'est lourd. Enfin, il y a un en même temps qui peut être assez paradoxal, c'est-à-dire qu'il sans obligation constitutionnelle, il parle devant l'Assemblée nationale, donc c'est une certaine noblesse d'esprit, grandeur d'âme, il s'est auto-félicité de cette attitude, donc on est dans les hautes sphères, si vous voulez, dans la noblesse du comportement, et en même temps, ce gouvernement, c'est pas contre le gouvernement que je parle là, c'est pas du tout au sens politique, mais ce gouvernement devient un pouvoir, un biopouvoir au sens foucaldien, qui va s'immiscer, qui va descendre jusque dans les soubassements de nos organes et de nos corps fiévreux à parquet en quarantaine. Donc c'est paradoxal d'une certaine façon. On a une belle attitude très noble et en même temps on est capable d'aller traquer jusqu'au fin fond de nos organes la fièvre et les autres symptômes du virus.
C'est le pouvoir absolu et doux à la fois dont parlait déjà Tocqueville.
Exactement, c'est ça. Alors, j'ai pas le texte de Tocqueville sous les yeux, mais il parlait quand même d'un pouvoir absolu, détaillé, régulier, prévoyant, doux, qui couvre la société d'un réseau de petites règles compliquées, minutieuses, uniformes, et qui rend docile les individus. Et là, et on est dans une docilité. Alors, tout l'enjeu, c'est de pas s'installer dans cette position victimaire, justement, et de rester un agent, un sujet actif, malgré ces contraintes qui réduisent à peau de chagrin nos libertés individuelles.
C'est un peu le sens du livre que vous avez publié, dont je parlais tout à l'heure, sur ce développement impersonnel, où on a besoin de coachs, on a besoin de meneurs, et on émet finalement des idées prémâchées.
Oui, c'est ça. Alors c'est exactement la même problématique pour moi. C'est celle de la liberté qui compte plus que tout. Et effectivement, dans la sphère sociale, on le voit, il y a un lien avec la santé. D'ailleurs, l'individu étant son horizon à lui-même, il y a une chute progressive des transcendances qui fait que l'individu devient son propre horizon, ce qui fait que la question de la santé, la question du bien-être deviennent fondamentales. Et effectivement, on a des coachs pour tout maintenant, des coachs pour s'habiller, pour se maquiller, pour manger, pour se comporter, pour parler en public, etc. Et ce sont souvent des kits comportementaux qu'on met à disposition des lecteurs ou des clients et qui sont des postures, qui pour moi tournent à l'imposture, parce que comment voulez-vous être vous-même authentique en suivant les conseils d'un autre? Comment le développement personnel ne peut-il pas devenir impersonnel en s'adressant au moi de chaque lecteur et de chaque client comme à 10 millions d'autres? Il y a des incohérences de fond, et ce qui m'a amusée, enfin amusée c'est un grand mot, mais enfin je me suis intéressée aux rouages rhétoriques et aux idéologies sous-jacentes à ces techniques comportementales.
Et la philosophie, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire que c'est un chemin non balisé.
Vers la liberté, c'est ouvrir les fenêtres, c'est dire mais quand on dit ça, qu'est-ce qu'on pense? C'est questionner en permanence les présupposés, c'est surveiller les dérives liberticides. Donc pour moi, c'est surtout insister sur la liberté de l'individu et sur la singularité de l'individu. Or cette littérature ou cette nouvelle mode comportementale ne va pas sans soustraire l'individu à un certain mode de fonctionnement. Donc il conditionne, c'est du conditionnement, et évidemment que la philosophie est un déconditionnement, pas déconfinement, mais déconditionnement. Absolu.
Pour nous apporter de la douceur et du réconfort en ces temps difficiles, on n'a jamais vu autant de films avec Louis de Funès à la télévision.
Oui,
il se trouve que Louis de Funès est votre grand-père. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Écoutez, j'étais évidemment, comme toute ma famille, mes parents, mes frères, mes enfants, on était très fiers, très flattés qu'il soit un tel réconfort pour les familles françaises. Après, comment l'expliquer ? Souvent, les acteurs l'expliquent par le génie de son jeu, mais je pense qu'il y a d'autres acteurs géniaux qui n'ont pas perduré dans le temps comme lui. Donc, je pense que c'est aussi autre chose. Et je crois finalement qu'il a été l'intercesseur, qu'il a réussi sans le vouloir, mais à être l'intercesseur entre soi et une France qu'on a fantasmée comme qui était une France, il dit, la France des Trente Glorieuses, un intercesseur entre soi et sa famille, parce que quand on regarde un film, ça évoque évidemment des bons souvenirs. On regardait ces films avec ses parents, ses grands-parents, on les regarde maintenant avec ses enfants, et donc c'est un intercesseur finalement entre soi et soi-même. On se retrouve à une certaine époque, on a envie de faire perdurer ça, et je crois que c'est un peu le secret. Il est rentré dans le foyer parce qu'il est rentré vraiment dans l'identité finalement des gens, et c'est un moyen pour se retrouver à une autre époque.
Dernière question avec une réponse courte, si vous le voulez bien,
oui.
C'est les applaudissements, les fameux applaudissements du soir à 20h.
Ah oui,
c'est
vrai que ça m'a un peu énervée.
Ouais. Ça vous énerve parce que vous pensez que c'est une fausse reconnaissance et que ça n'engage à rien en fait.
Non, je trouve ça très sympa, mais je trouve que c'est, attribuer ça avec le mot de reconnaissance, c'est un peu facile. Il suffit pas de se mettre sur son balcon avec un verre de rosé, un ukulélé dans l'autre main pour dire qu'on est reconnaissant envers les médecins. La vraie reconnaissance, elle suppose des actions, et c'est très difficile de reconnaître aujourd'hui, parce que c'est pas simplement un oubli, les médecins étaient dans la rue il y a quelques temps, mais reconnaître, c'est différencier, c'est valoriser, c'est hiérarchiser. Or aujourd'hui dans notre pays, on vit dans une idéologie égalitariste, tout doit se valoir, pourquoi cette fonction primerait sur telle autre. Et je pense qu'un des enjeux du déconfinement, après le déconfinement, c'est justement de remettre l'accent sur les métiers utiles, nécessaires, utiles, non nécessaires, non utiles et non nécessaires.
Merci beaucoup Juliette Funès.
Merci à vous.